Monique Pinson-Charlot, bonjour, bonsoir. Vous êtes sociologue, ancienne directrice de recherche au CNRS. Vous avez écrit entre autres « Sociologie de la bourgeoisie, les ghettos du Gotha, le président des riches ». Et votre dernier livre s'intitule « La violence des riches ». Alors, pour rappel, est-ce que vous pourriez nous parler de cette classe sociale, celle des riches ou des très très riches, que vous observez et que vous décrivez à travers vos livres ?
Alors oui, on travaille depuis bientôt 30 ans avec Michel sur les grandes dynasties familiales qui s'accaparent les richesses et les pouvoirs en France. Et on les ausculte avec les instruments et les concepts de la sociologie. Et là, ce dernier livre est un peu un livre bilan de ces 30 ans de travail où on essaye de décortiquer les différentes formes de violence qu'impose justement cette classe dans ce que nous estimons être une guerre que mènent les plus riches contre les autres classes sociales, hein, les cadres supérieurs, les classes moyennes et les classes populaires. Et qu'ils sont certainement en train de gagner puisqu'ils sont arrivés à transformer leur système économique, c'est-à-dire ce système néolibéral où c'est la finance folle, la spéculation qui a pris le pas sur le développement industriel et la production, et cette spéculation, cette financiarisation de l'économie à l'échelle du monde, ben, entraîne tout simplement le monde à sa propre perte. Par la destruction, le réchauffement climatique, par la destruction des ressources naturelles, par le pillage des matières premières. Bref, on n'est pas à l'aube, on est dans la catastrophe. Et on vit normalement, on fait comme si rien ne se passait de grave, alors que la situation est très très préoccupante. Et donc ce livre, La violence des riches, est un livre qui se veut un immense cri d'alerte de la part de deux sociologues qui ont eu la chance de pouvoir travailler sur ces familles les plus fortunées. À l'échelle de la France, et elles sont très solidaires aussi à l'échelle de la planète. Et voilà, et donc il faut absolument que notre livre soit lu. Alors en plus, il est mis gratuitement sur Internet pour permettre à ceux qui ne peuvent pas acheter le livre de quand même pouvoir profiter de nos idées, des enquêtes, des différents personnages, parce qu'on essaye d'incarner tout ce que nous disons. On n'a pas du tout un langage d'expert. On incarne, on montre toujours que c'est des agents sociaux, que c'est de la construction sociale. Il n'y a pas l'État et les paradis fiscaux. Non, il y a une classe oligarchique qui a mis l'État à son service et qui utilise les paradis fiscaux pour précisément éviter la redistribution des richesses.
Alors justement, quelle est cette violence, quels sont ces différents types de violences que vous analysez dans ce livre de la part de cette classe dominante ou oligarchique ?
Alors les violences sont de divers ordres. Elles sont d'abord objectives sur le plan économique avec la mise au chômage de millions de Français. Hein. Et d'ailleurs, ça c'est absolument extraordinaire parce que à la télévision, à la radio, enfin pas votre radio visiblement, les riches n'arrêtent pas de se présenter en créateurs d'emplois, alors qu'ils n'arrêtent pas de détruire des emplois, de délocaliser des entreprises qui sont parfaitement compétitives, comme ils disent, mais où ils auraient plus de profits en les délocalisant dans les pays où les travailleurs sont payés au tarif local, celui de la misère. Donc il y a cette violence économique, cette violence objective sous sa forme économique, mais aussi qui peut être sous une forme urbaine. Par exemple, systématiquement, les plus pauvres, les travailleurs, sont relégués loin des centres-villes, dans des espaces sous-équipés, très souvent dégradés, et accompagné d'une politique de la ville avec un langage technocratique fait de sigles barbares et incompréhensibles qui sont là pour semer le brouillard dans la tête des gens. Il y a aussi beaucoup de domination, de violence idéologique, de violence qui se sent moins, parce que c'est un travail sur les cerveaux, c'est un travail sur les consciences, où il s'agit pour les puissants d'obtenir le consentement des autres classes sociales, des autres membres de la société française, le consentement, mais un consentement qui aujourd'hui doit éviter d'être obtenu précisément par des agressions physiques, par de la violence physique, mais plutôt par l'acceptation au nom de la liberté. Hein, on dit souvent avec Michel qu'on est devenus des esclaves, mais nous croyons en liberté, et ça c'est très fort.
Une domination qui se fait passer pour une donnée de nature, si je comprends bien. Au fond, qu'est-ce que cette classe dominante cherche à dissimuler, à faire oublier dans cette hégémonie, dans cette domination que l'on croit naturelle ?
Ben c'est l'arbitraire des rapports sociaux de domination. Si ces gens-là sont dominants, c'est parce qu'ils sont nés du bon côté de la barrière à un moment donné, et donc ils s'accaparent les privilèges donc arbitraires et insensés, et à partir de là, il faut qu'ils maquillent au nom du mérite, au nom de leur qualité naturelle, au nom de leur capacité extraordinaire. Et donc, ils se permettent de justifier, par exemple, le fait qu'ils peuvent être payés en millions d'euros, alors qu'en France, il y a près de 10 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, parce qu'ils auraient des compétences extraordinaires et qu'ils seraient absolument indispensables pour créer de la richesse et de la compétitivité dans notre pays, alors que nous, sociologues impertinents, nous montrons que, en réalité, ces rémunérations obscènes sont le résultat de la seule composition des comités de rémunération, où c'est un entre-soi oligarchique, c'est-à-dire c'est Jean-Louis Beffa, Bernard Arnault et autres Pinault, Frères ou Lagardère, qui, de conseil d'administration en conseil d'administration, décident de payer les dirigeants en millions d'euros. Et ce n'est pas du tout les qualités qui sont sanctionnées, c'est l'entre-soi oligarchique qui seul explique ces rémunérations obscènes.
Alors on entend beaucoup parler d'inégalités entre les classes populaires et les classes riches. On parle aussi des privilégiés à propos de cette oligarchie, de ces classes oligarchiques. Le privilège, c'est le fait de s'exonérer du droit, de la loi commune, je repense à Sieyès notamment. Finalement, quels sont les privilèges qui sont accordés à cette classe dominante ?
Mais ce n'est pas des privilèges qui sont accordés, c'est qu'ils se les accordent. Hein, y a pas de loi commune, c'est leur loi. C'est eux qui transforment leur pouvoir en droit et qui transforment l'obéissance des dominés en devoir. Donc si vous voulez, là il y a une opération machiavélique qui fait que leurs intérêts particuliers doivent devenir l'intérêt général. La crise qui est leur crise doit devenir la crise. Leur droit devient le droit. Et donc toutes ces manipulations machiavéliques, cyniques, mensongères, sont précisément le travail que nous faisons. Nous les repérons, nous les décryptons, nous les objectivons et nous les donnons à lire à nos lecteurs, notamment dans ce dernier livre.
Alors, dernière question. Quelles sont les valeurs que les classes populaires et moyennes peuvent opposer à la domination oligarchique ? Quelles sont les qualités que les classes moyennes et populaires possèdent et dont la classe oligarchique ne dispose pas ?
Ben c'est le travail, c'est-à-dire qu'on est face à une espèce de pyramide. Les riches représentent le petit haut de la pyramide. Et donc, si vous coupez le haut, de toute façon, tout le reste tient. Hein, tandis que si on coupe et que le bas s'écroule, ben le haut ne tient plus. Et donc, par cette image, je veux simplement montrer que les riches peuvent très bien partir. Comme on l'a dit dans la conférence, l'argent est déjà parti dans les paradis fiscaux. Hein, c'est le trou noir du système capitaliste. Précisément, cette fuite de l'argent pour éviter la redistribution aux autres classes sociales et créer des déficits et des dettes qui sont totalement factices, qui sont construits, comme le trou de la sécurité sociale. sociale, tout ça, c'est construit, parce qu'on pourrait très bien décider que là, il n'y a pas de limite à la santé, que le capital humain doit être au centre de notre passage sur cette terre. Et tandis que eux veulent nous imposer une société basée sur le seul argent roi, le seul dieu l'argent, et un argent sans foi ni loi qui ne nous intéresse pas.
Monique Pinson-Charlot, merci.
Merci à vous.